Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous en recevrons pour la première partie de l'émission, mais c'est une émission exceptionnelle, mesdames et messieurs, puisque au cours de cette émission, nous allons remettre notre grand prix du livre d'économie que nous décernons avec la société de gestion Montpensier Finance, représentée par son président Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour Emmanuel.
Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, un format plus traditionnel, nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nos chroniqueurs, Benaoud Abdelhaim, notre globetrotter, Eva Jacquot, aujourd'hui notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on démarre donc avec notre grand prix du livre d'économie de l'année 2022.
La librairie de l'écho. Spécial Grand Prix du Livre Éco BFM Business.
Alors, le lauréat, vous le découvrirez dans quelques secondes. Il est à nos côtés sur ce plateau. Bon, allez, je trahis une petite. Petit secret, en fait, ils sont deux. Vous allez voir. Alors, Guillaume, avant de vous donner la parole, de présenter le livre, de dire qui est le vainqueur, je rappelle quand même notre objectif, c'est de décerner ce prix à un livre original qui fait avancer le débat économique, si possible un débat d'actualité qui repose évidemment sur une argumentation solide tout en étant lisible par un large public et qui, grosso modo, mérite un vrai coup de projecteur pour cette contribution importante au débat. Guillaume, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce prix, hein. Il faut le dire. Et pourquoi c'est important pour vous de vraiment de mettre en lumière chaque année un livre d'économie ?
Bon, d'abord parce que vous savez que j'adore votre émission, le Grand Prix de la librairie de l'écho, et que ça semblait important, on l'a décidé ensemble, Emmanuel, vous faites le modeste, mais qu'on mette en valeur un livre qui marquait son année, qui soit, comme on l'a dit, de source économique, mais avec une vision souvent sociétale un peu plus large. Je crois que c'est aujourd'hui, ça va être le septième prix que nous remettons.
Absolument.
Et on a eu quand même des thématiques formidablement intéressantes qui ont été au cœur du débat de société. On a même été un peu en avance. Quand on a fait le climat après la fin du mois de Christian Gaulier, c'était très en avance. La guerre des métaux rares avec Guillaume Pétron. Tous les livres ont été très bons. Mmh. Et l'année dernière, avec les réseaux sociaux, Apocalypse cognitive de Jarbon. On a qui était
absolument
extrêmement marquant et
qui... Allez, Guillaume, enlève le suspense.
Allez, le suspense.
Qui sont nos lauréats de cette année ?
Alors, le septième prix BFM Business Montpensier Finance est accordé à Augustin Landier et David Tesmar pour leur ouvrage Le Prix de nos valeurs. Bravo, messieurs.
Bravo, messieurs. C'est publié chez Flammarion.
Merci.
Alors, Augustin Landier, je rappelle, vous êtes professeur de finance à HEC.
Ouais.
Et David Tesmar, vous êtes vous aussi professeur de finance, mais de l'autre côté de l'Atlantique.
Absolument.
Au MIT, à la oui. Sloan School of Management. Alors, votre livre, alors, Augustin, vous avez déjà reçu hein, pour le présenter ouais. Brièvement. Votre point de départ, c'était quand même de dire, voilà, il y a d'un côté nos valeurs et combien on est prêt en fait à finalement à mettre, est-ce qu'on est prêt à dépenser pour pouvoir finalement être fidèle à nos valeurs, est-ce que des décisions soient fidèles à nos valeurs?
Ben exactement, le point de départ c'est qu'il n'y a pas que l'efficacité et l'égalité dans les désirs, les aspirations de la société hein, et que finalement, nous économistes, dans le débat souvent, on contribue en essayant de ramener les choses à ces deux dimensions-là. Mais en réalité, les gens ont d'autres aspirations, d'autres grilles de lecture, et qu'il faut essayer de les comprendre et de les prendre à la lettre au lieu de dire qu'elles sont déplacées. Il y a bien un lien entre les valeurs et l'économie, et il faut l'assumer.
Oui. Et d'ailleurs, ça vaut dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut être prêt
à sacrifier l'efficacité économique au nom de ces valeurs. Ouais. Mais c'est en quelque sorte le rôle des économistes de dire bah, combien ça coûte, on n'a rien sans rien. Voilà, donc il y a toujours un peu cette tension-là qui...
Alors, votre livre, il repose aussi sur, et c'est ça qui aussi en fait son côté passionnant, sur un travail original hein, d'enquête, de questionnement, où vous avez interrogé finalement des gens à grande échelle, avec un institut spécialisé, avec des questions finalement assez concrètes, du genre, bah, par exemple, combien est-ce que vous êtes prêt à payer en plus pour qu'il y ait des petits commerces près de chez vous, combien vous êtes prêt à payer en plus pour prendre un train ou un tramway qui a été fabriqué en France, etc. Et là, vous obtenez quand même des résultats assez étonnants.
Oui, donc bah, un premier, on peut se partager un peu les résultats. Je crois qu'un premier constat, c'est que au fond, l'intuition initiale de l'économie, qui est d'être un peu la science du juste milieu, d'essayer de trouver un peu comment les gens font des compromis, elle est validée. C'est-à-dire que bah, plus c'est cher d'exprimer une valeur, plus les gens sont réticents à le faire. Donc ça, c'est confirmé par les sondages, et en un sens, c'est même...
Mais pas toujours non plus. C'est étonnant. Il y a des résultats où les gens sont plus altruistes qu'ils semblent, de façon assez significative, notamment sur la concurrence ou le protectionnisme, si on veut.
Ouais. Oui, ils sont prêts, mais il y a toujours une limite. Hein. Donc c'est un peu ça la magie du sondage, c'est qu'on a tiré des sous-échantillons, à certaines personnes on leur disait ça coûtera rien, à certaines autres personnes on leur dira ça coûtera un peu, à d'autres personnes on leur dira ça coûtera beaucoup, et on a bien vu des différences de réponses très très fortes. Par exemple, on a des questions par exemple sur les soins en fin de vie par exemple. Donc on demande, voilà, il y a une personne qui est très malade, on peut rallonger sa vie, etc. Combien êtes-vous prêt à payer? 10 000, 100 000, 1 million, ben, la réponse n'est pas la même.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on sent quand même dans votre livre une espèce de volonté, c'est peut-être exagéré, mais de réconcilier un peu l'économie et l'altruisme. Et quand même, on voit les gens globalement plus altruistes qu'on pourrait le penser. Pas tout le monde, pas tout le temps, pas chacun, avec des différences, mais bien davantage qu'on pourrait le croire, notamment par exemple dans l'investissement, qui est un sujet. On voit que dans l'investissement, les gens sont prêts à aller vraiment vers les sociétés qui feraient changer le monde, notamment sur la transition climatique, par exemple.
Oui, absolument. Alors les gens sont prêts à faire des sacrifices sur leur rendement financier. On a des questions, on le pose pas sous la forme de la finance, mais on a par ailleurs avec Augustin des travaux de recherche là-dessus, d'ailleurs, qu'on est en train de faire actuellement, où effectivement les gens semblent prêts à faire des sacrifices sur leur rendement financier, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, effectivement.
Alors la sensibilité au coût, elle varie effectivement suivant les thèmes.
Hein, suivant les thèmes et suivant les individus.
On voit par exemple que les questions sur les questions liées à l'identité, à l'immigration, à la culture, les gens transigent peu, même si c'est coûteux. Alors qu'en revanche, il y a des thèmes comme finalement la limitation de la concurrence, le protectionnisme, la protection des centres-villes, où là, bon, on sent qu'on est plus dans le juste milieu quand même.
Ouais, donc il y a effectivement en France en particulier une espèce de rôle de l'identité, de la culture qui fait que on se distingue un peu de l'Allemagne et des États-Unis sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un des points du livre. Mais autrement, les trois pays, puisqu'on fait cette enquête sur trois pays, hein, France, Allemagne, États-Unis, les trois pays sont assez similaires. Les variations sont plutôt au sein de chaque pays. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit des espèces de grands archétypes, disons, psychologiques ou qui se dégagent et qui expliquent la manière dont les gens conçoivent cet arbitrage entre l'efficacité économique et les valeurs.
Et Emmanuel, si vous permettez, tous ces questionnaires sont très intéressants de regarder en détail le prix des valeurs, si j'ose dire. Mais je trouve que l'ouvrage, il est beaucoup plus large que ça. Mmh. C'est à la base un ouvrage d'économie qui dérive doucement vers un ouvrage de philosophie. D'ailleurs, à un moment, vous avez cette phrase où « D'où parlez-vous, camarade ?» On a l'impression que vous êtes devenu, que votre ambition, même si vous dites que vous n'êtes pas formé pour ça, on sent quand même une ambition très grande de une espèce de Weltanschauung du monde aujourd'hui. Donc c'est un livre très très ambitieux.
Il y a une inspiration qui est une inspiration pluraliste, en ce sens que ça reste un livre libéral, même si on dit, bon, il n'y a pas que l'économie, on peut vouloir mettre des frictions dans l'économie pour l'empêcher de bien marcher si ça satisfait certaines aspirations.
Libéral, mais pas que,
mais,
hein, si on
le... Mais c'est libéral au sens de l'acceptation de la pluralité des valeurs, donc il y a une idée, les valeurs sont très plurielles.
C'est pas un livre d'économie libérale pure. Hein. Vous avez une formation d'ouverture d'esprit, mais il est très passionnel.
Parce qu'il y a l'idée quand même, c'est comment on fait pour que les gens puissent vraiment décider eux-mêmes et qu'il n'y ait et qu'il n'y ait pas finalement des fonctionnaires, des politiques qui décident à la place des gens en pensant ce qui est bon pour eux, mais à leur place.
Oui, je crois qu'il y a un désir d'essayer d'ausculter les préférences. Donc les préférences, c'est vraiment un concept d'économiste pour le coup, c'est-à-dire de dire bon, voilà, dans l'espace des choix possibles, comment vous vous situez. Donc d'essayer d'ausculter un peu comme un médecin, d'essayer et d'aider les gens aussi à réfléchir, parce que on est conscient que les sondages, ils ont une limite. C'est souvent des situations un petit peu imaginaires. Et là, effectivement, on emprunte à la philosophie analytique avec, vous savez, le trolley problème, le tramway qui peut aller d'un côté ou de l'autre et tuer une personne ou cinq personnes, donc ces types de
c'est pas aussi gore à chaque fois.
Non, c'est pas aussi gore à chaque fois. Mais on emprunte un peu ce que les Américains appellent des expériences de pensée. Quoi.
Non, mais il y a par exemple une phrase formidable, vous dites, dans un groupe, finalement, si on n'a pas un altruiste, la vie va être horrible. Et donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même avec un mécanisme d'analyse économique plutôt libérale, vous dites oui, mais il faut aller un peu plus loin que le pur égoïsme, il faut voir la construction de la société pour elle fonctionne et l'altruisme à sa place.
Oui, alors en l'occurrence, ça c'est emprunté à Gary Baker, donc on reste quand même dans la citadelle
de l'économie. Hein, libérale en France, c'est pas un compliment. Hein.
Ce qui est puissant pour rejoindre ce que dit Guillaume, c'est que finalement, vous arrivez à dégager des grands axes de marge de manœuvre pour concevoir des politiques économiques. Et vous dites par exemple, on voit bien les clivages qui se dessinent à travers toutes les questions que vous avez posées. Il y a le bon vieux clivage droite-gauche. Donc là, par exemple, qui est très opérant sur les cultures, sur les questions de culture, d'immigration. Et puis vous dites, il y a la vision État-providence, État-régalien. Et là, on arrive déjà à dessiner des axes finalement et des marges de manœuvre pour finalement mettre en place des politiques économiques.
Oui, on a un axe qui privilégie altruiste versus individualiste en quelque sorte. Il y a une idée, une notion de, c'est là où l'altruisme intervient. On a des gens, on a dans la population des gens qui sont très individualistes. Ceux-là sont vraiment très en faveur des mécanismes d'économie. Ils aiment beaucoup qu'il y ait de la concurrence pure et parfaite, qu'il n'y ait pas de distorsion, qu'on subventionne pas les magasins de centre-ville, etc. Donc ça c'est pour les individualistes. Donc ça c'est une partie potentiellement de l'électorat, d'ailleurs. On pourrait réfléchir à quel candidat il s'attache, mais c'est en tout cas des gens qui pensent que l'individu est souverain, puis des gens qui pensent que l'individu doit être plus soumis au bon vouloir de la société. En tout cas, la société vient en premier et l'individu ensuite. Et ces gens-là sont plus prêts à faire beaucoup d'entorses à toutes les versions de... Et ça, c'est pas le clivage droite-gauche, c'est un clivage un peu différent.
Et c'est pour ça que ce livre rend optimiste, c'est-à-dire qu'on voit que ça n'est... qu'on peut dépasser ces clivages un peu traditionnels, qu'il faut aller plus loin que le pur économisme, mais qu'on peut tout à fait imbriquer l'un avec l'autre dans une situation qui est intelligente économiquement. C'est-à-dire que plutôt que dire je ne veux pas savoir, on voit bien le débat en France, l'économie ça n'existe pas, que la politique domine. Non, on peut, tout en gardant un raisonnement économique, introduire des valeurs sociales et altruistes de façon positive sans faire tomber la maison France.
Totalement. Je crois que l'idée, c'est que notre métier d'économiste, c'est pas de séparer les sujets. Je crois que longtemps, la discipline s'est dit, c'est important de séparer les sujets. Il y a des débats moraux d'un côté, des débats économiques de l'autre. Mais on voit bien que ça fonctionne plus. Et que d'ailleurs, nos étudiants non plus ne veulent pas de ça. Ils veulent poser les questions de manière simultanée. Et donc, de plus en plus, je pense que la discipline économique va être amenée à introduire ces questions de valeur directement dans le champ de mainstream. Ça va pas être quelque chose d'égalique
pour le nouveau gouvernement.
Mais c'est ça qui est intéressant. Et là où on est assez fier avec Guillaume, c'est qu'en fait votre livre, il est sorti quoi, il y a 6 mois à peu près. On se rend compte qu'il est encore plus, mais vraiment utile aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il y a finalement dans votre livre, c'est aussi finalement une estimation des points d'équilibre sur beaucoup de sujets entre les valeurs et l'efficacité économique. À un moment où on sent bien que, pour toutes les raisons politiques qu'on connaît, il va falloir sur beaucoup de sujets tenter des compromis. Et donc là, vous nous donnez à chaque fois, presque sur chaque sujet, finalement, ces points d'équilibre entre
la valeur et l'efficacité économique. Et un mode justement pour essayer de le faire ensemble.
Vous savez quoi ? Vous allez en envoyer un exemplaire à Emmanuel Macron. Bon, il l'a déjà lu, certainement.
Mais il paraît qu'il l'aime beaucoup.
Non, mais c'était... même il y a 6 mois, on pouvait pas penser que ce livre serait autant en situation qu'aujourd'hui.
Oui, alors en même temps, il a été généré par des questionnements de l'actualité, ouais, c'est-à-dire les gilets jaunes, le Brexit, où on voyait bien que les économistes avaient une vision étriquée des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la consommation pour mesurer le malaise des gens. Donc le mal-être tenait plus au fait que les gens ne se sentaient pas écoutés, l'impression qu'il n'y avait pas du tout de débat, pas de délibération. Et effectivement, je pense qu'on a anticipé un petit peu que cette élection allait être un peu sur un désir de délibérer, un désir de reprendre la main sur le débat et de dire il n'y a pas que la conclusion de débat qui compte, il y a le débat lui-même, la manière dont on arrive en fait à se dire que c'est ça le compromis, c'est ça le consensus. Et donc le rôle du politique, c'est pas simplement de savoir quelle est la bonne réponse, ouais, mais c'est aussi de trouver le chemin pour
et oui, en parce convaincre que la bonne le réponse, collectif. De plus en plus, elle va s'élaborer en chemin.
Exactement.
Oui, et on dépasse la vision manichéiste un peu traditionnelle du monde, et c'est vraiment formidable pour 2022 et plus tard.
Parce que, David, on voit l'autre question, alors qui pour le coup est une question, j'ai envie de dire presque universelle chez les économistes, c'est quand même cette sacrée question de l'agrégation des préférences individuelles.
Oui. Et ça, on l'aborde très peu dans le livre. On pense que c'est vraiment, ça serait une deuxième étape. Notre point de départ, c'est en ce sens que le livre est un petit peu libéral, c'est qu'on quand même, on veut d'abord, avant de commencer à dire aux gens comment est-ce qu'il faudrait un peu arbitrer entre leurs différentes préférences, entre leur aspiration, leur supposée aspiration à l'égalité, etc. On va leur demander déjà à quoi ils aspirent. Donc, en un sens, c'est un peu demander aux gens ce qu'ils pensent. Maintenant, on est tous d'accord que parfois, y a une discussion morale, il y a une délibération morale, potentiellement entre les gouvernants et le peuple, ou même au sein du peuple, sur ce qui est la bonne chose, ce qui est la bonne vie, ce qui est la bonne économie, la bonne décision politique, etc. Et ça, c'est pas forcément les opinions brutes qui sont celles qui sont collectées à la fin du livre, elles peuvent évoluer. Voilà, elles peuvent évoluer. Donc, si par exemple les gens, par exemple, sont prêts à payer beaucoup d'impôts pour garder les petits magasins de centre-ville, peut-être que c'est vrai. Peut-être que si on y réfléchit, qu'on s'assoit, qu'on réfléchit à tous les tenants et les aboutissants, si on maintient des magasins de centre-ville, on détruit des emplois dans les supermarchés de périphérie, des choses comme ça. Si ça devient un peu plus compliqué, ça peut valoir le coup d'en discuter et peut-être que les gens vont changer d'avis.
Oui, au fond, vous citez, le livre est très riche, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de thématiques traitées, et donc là vous parliez au fond du quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte global, il est peut-être qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on comprend à faire ça? Parce que l'arbitrage actuel qui est de dire endettez-vous, puis on verra plus tard, endettez les générations d'après, là, il n'y a pas peut-être la question précise, mais est-ce que vous avez un sentiment sur...
Oui, je crois que justement le livre maintient l'idée que la question de la rareté reste centrale dans le monde contemporain. On peut pas respecter toutes les valeurs, les exprimer toutes, autant qu'on voudrait, autant qu'on aspire à le faire. Et donc il y a bien des choix, des priorités à définir. Et qu'on peut pas éluder ce débat, parce que c'est vrai que les philosophes parfois disent non, les choses sont incommensurables et donc il y a pas de prix de la vie, mais en même temps, justement, pendant le Covid, on a bien vu qu'il y avait des arbitrages à faire. On est bien obligé de choisir. Le milieu médical est très habitué à ces choix et développe des raisonnements éthiques. Et donc l'idée c'était d'ausculter la population et aussi de réaliser que les gens ont des idées sur le sujet. Ils se disent pas j'ai jamais pensé. En fait, beaucoup de gens ont des conceptions éthiques. Et les sondages, en fait, ont rarement les dévoilent rarement, parce que les sondages disent est-ce que vous êtes pour ou contre la pollution, tout le monde est contre, c'est pas intéressant. La question c'est concrètement est-ce que vous êtes prêt à baisser votre salaire pour aboutir à une société qui pollue moins, c'est ça la question.
Mais c'est pour ça que le livre est presque une espèce de manuel de sortie du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire comment on fait des choix, où sont les marges de manœuvre, sur quoi est-on prêt effectivement à faire des sacrifices financiers, sur quoi n'est-on pas prêt à en faire.
Mais d'ailleurs, dans ce domaine, on a une question qui répond exactement qui est sur le budget. Quel est votre budget idéal de l'État? Donc, il y a, je sais pas quoi, sécurité, etc. La somme, ça doit faire 100%. Ça peut pas faire plus. On peut pas faire plus partout. Ouais. Donc, il y a forcément, si on décide de faire plus de sécurité, on aura moins d'éducation, etc.
Et les gens sont d'accord pour rembourser la dette, d'ailleurs. C'est assez
intéressant. Oui, bien sûr.
On voit dans plusieurs pays que disent non. Fais pas trop confiance, on va pas donner l'argent infiniment à l'État pour qu'il va un peu le dépenser.
Même en France.
Soyons sérieux.
Non, les gens sont prêts, sont favorables à ça. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans les décisions d'allocation budgétaire, il y a clairement les gens qui veulent aller vers le régalien, plus de police, plus de justice, plus de guerre, plus de défense, et puis ceux qui veulent aller vers l'État-providence. Et ça s'aligne parfaitement avec l'acte droite-gauche. En revanche, ça reste un clivage droite-gauche très clair, l'allocation du budget de l'État. Donc ça, c'est...
Ça n'a pas disparu.
Non, ça n'a pas disparu.
Mais quand même, partout, on trouve un peu de raison et que...
Oui.
Il y a aussi un des autres axes, c'est quand même individualisme, collectivisme.
Voilà.
Qui reste, lui, vraiment aussi un axe majeur. Ouais.
C'est là qu'il y a un lien d'ailleurs avec la philosophie, parce qu'on retrouve en fait un des vieux débats entre les sociologues et les économistes, c'est-à-dire quelle est la bonne unité pour comprendre la société, est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est le groupe. Et on voit bien qu'il y a plein de situations où les individus considèrent que c'est logique de sacrifier l'individuel pour le groupe, pour la survie du groupe, et que ça c'est aussi quelque chose qui est un clivage au sein de la population. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a des identités différentes sur ce thème-là.
Et alors, la rente, c'est l'ennemi, comme vous le dites, des économistes libéraux, normalement. Mais au fond, sans réhabiliter purement la rente, vous expliquez, attention, dans les rentes, il y a un intérêt sociétal à certains moments.
Ben oui, donc ça c'est lié un peu à la relecture quand on reparlait d'individualisme, collectivisme, enfin disons individualisme et holisme, diraient certains anthropologues français. Dans cette lecture-là, on est tombé un peu sur les travaux, on est retombé sur les travaux d'Émile Durkheim, donc sociologue français de la fin du 19e, qui lui un peu parlait de l'aspiration, de l'aspiration des gens à appartenir à une société, à une collectivité, et que bon, c'est assez émouvant cette lecture-là, parce qu'il est lui-même un peu lyrique, où il dit, quand même, on n'est jamais aussi heureux que quand on participe à un effort commun, quand on dépasse ses propres petits intérêts pour penser aux intérêts du groupe, etc. Et on a bien l'impression, quand même, que la révolution néolibérale, pour le dire vite, dans les années 80-90, a un peu fait table rase de tout ça. Elle a dit, l'unité de pensée, c'est l'individu optimise, l'État dérègle les règles du jeu, etc. Ben, peut-être qu'en fait, il y a un besoin, il y a un appel, un besoin de corps intermédiaire plus fort que ça, donc d'unité d'appartenance collective pour les gens.
Alors justement, moi, il y a quand même une partie de votre livre. Alors je sais que c'est la fin, je sais que c'est pas le cœur du livre, mais qui, moi, m'a passionné, c'est que l'aboutissement de votre réflexion sur finalement cette comment réconcilier démocratie et économie, c'est vous avez une réflexion sur le vote. Et vous dites, finalement, le tabou absolu auquel on ne veut jamais toucher, c'est la logique majoritaire, c'est-à-dire la loi des 50% plus une voix. Et vous dites quand même, la logique majoritaire, elle a des inconvénients profonds, notamment dans le désintérêt qu'elle porte pour la vie politique d'une partie de la population. Et donc, il faut réfléchir à des nouvelles façons d'agréger finalement les préférences individuelles. Et vous citez d'autres méthodes. Alors, on a envie d'en savoir beaucoup plus, mais vous parlez par exemple du vote quadratique. On pourrait avoir un capital de points où on pondérerait le vote qui serait le plus important pour nous. Vous parlez d'assemblée citoyenne, etc. Moi, j'ai trouvé cette partie-là passionnante. Alors, c'est vrai que c'est pas le cœur du livre, mais c'est quand même l'aboutissement de la réflexion.
Ça sera un autre livre. Je pense que cette réflexion, elle est nécessaire, parce qu'on voit bien que tout ça conduit sur comment on va organiser la délibération. On a du mal avec les institutions actuelles. La démocratie est en crise un peu partout.
Mais oui.
Et donc, il y a différentes idées, en fait, dans les sciences sociales. Le vote quadratique en est une. Donc, l'idée, c'est on a tous des jetons de vote, mais on va mettre plus de jetons sur les questions où on pense qu'on est plus pertinent ou qui sont vraiment très importantes pour nous. Donc, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il faut réintroduire l'ours dans les Pyrénées ? Moi, j'en sais rien. Et il vaut mieux pas que je vote sur ce sujet. Il vaut mieux que je laisse les autres exprimer.
Donc vous, sur vos 1000 jetons, par exemple, vous en mettez un sur l'ours dans les Pyrénées.
Moi, je fais du vélo à Paris, donc j'ai des idées sur les endroits où il y a des problèmes.
Donc là, vous mettez 500 jetons sur le vote au municipal.
Et donc ça permet de s'exprimer en fait sur les sujets où on pense qu'on est pertinent et qui nous sont les plus chers.
Mais de façon générale, effectivement, tout ce qui est modulaire, local, toute décision modulaire, locale, pour que les citoyens se ressaisissent de la décision collective, pour qu'ils aient l'impression d'appartenir à un collectif. On sent bien que c'est un bon substitut à des élections nationales où on voit que les taux d'abstention sont de plus en plus élevés. Donc il y a quand même besoin de local, de collectif, de décentralisation.
Au moins, je crois qu'on est bien dans notre objectif, Emmanuel, puisqu'au fond, notre idée avec ce grand prix du livre éco BFM Business Montpensier, c'est de faire avancer le débat. Donc on l'a fait avancer avec le système de santé. Vous vous souvenez, c'était juste au moment du Covid quand Frédéric Bizard a dit... Ouais. Le système de santé français ne résistera pas à une simple grippe. une semaine après, il y avait le départ du Covid. Bon, je suis pas sûr qu'on ait trouvé des solutions. Christian Gaulier a beaucoup fait avancer en France le débat avec le climat après la fin du mois. On espère que vous allez faire avancer la France avec là même un programme encore plus ambitieux. Et là, on serait très heureux pour le prix.
En tout cas, on n'annonce pas de catastrophe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Un livre passionnant donc qui vous a valu le grand prix du livre économique de l'année 2022. Augustin Landier, David Tesmar, le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Et votre éditeur, c'est Flammarion. Merci messieurs, on était en plus ravis de vous avoir tous les deux sur le même plateau parce que je pense que aucun autre média n'aura cette chance vu que David, vous êtes aux États-Unis, Augustin, toujours par Mons et par Vaux. Donc c'était un plaisir et un bonheur, messieurs, de vous avoir tous les deux sur le plateau de la librairie de l'Écho. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième
partie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'Écho. Nous la clôturons avec nos chroniqueurs, comme de coutume, Benaouda Abdedaïm, notre globe-trotteur. C'est Eva Jacquot, aujourd'hui, qui sera notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. Au menu, cette semaine, un seul livre, parce que figurez-vous que c'est un livre qui a soulevé l'enthousiasme de nos deux critiques. Alors, on s'est dit, on va prendre le temps d'en parler, d'en débattre. Vous allez nous le raconter. Ce livre, c'est La Nation frontière du libéralisme par Francis Demier aux éditions du CNRS. Allez, qui tire le premier ? Christian.
J'ai voulu choisir ce livre parce que c'est le meilleur livre d'histoire économique que j'ai lu depuis longtemps.
Wow, franchement, voilà. Voilà, on vous l'avait dit. Hein.
Le thème, c'est quoi ? C'est libre-échangiste et protectionniste français. Donc, pendant ce long 19e siècle qui va de la Révolution française à 1914, il y a des batailles permanentes en France, du côté politique, du côté intellectuel, entre les partisans du protectionnisme, les partisans du libre-échange. Et ce livre, avec une érudition absolument fabuleuse, nous raconte le détail de ces batailles, la Révolution, l'Empire, la Restauration, etc., Louis-Philippe, etc., etc., Napoléon III, et de manière absolument, j'ai trouvé passionnante. Alors, c'est un livre d'universitaire, hein. C'est dense, faut rentrer dans le détail.
Peut-être un mot sur l'auteur, quand même.
C'est un professeur émérite à Nanterre, qui est un spécialiste du 19e siècle, que moi j'ai découvert à l'occasion de ce livre. Jean-Marc le connaissait déjà. Moi, j'ai découvert, franchement, juste avant d'entrer dans le détail, voilà, ce panorama général, un livre fabuleux d'histoire économique.
Jean-Marc Daniel.
Je rejoins parfaitement ce que vient de dire Christian. C'est un livre extraordinaire. Donc, Francis Demier, c'est un grand spécialiste du 19e siècle. Il a fait un livre sur la Restauration qui est, à mon avis, j'en ai lu deux ou trois, c'est le meilleur. Et on retrouve le talent de Francis Demier. C'est à la fois clair, simple, érudit, l'a dit Christian. Ouais. Et surtout, c'est de l'histoire chronologique. On commence en 1786, on finit en 1914. Il y a quatre grandes périodes, la Révolution, l'Empire et la Restauration, la Monarchie de Juillet, toute la période autour de Napoléon III avec la Deuxième République et puis les tout débuts de la Troisième République et puis ensuite la Troisième République. On s'y reconnaît, il n'y a pas de problème, on passe pas son temps à naviguer d'une période à une autre, ça s'enchaîne. Et en plus, il aborde les choses en donnant le point de vue des théoriciens de l'économie, des économistes, le point de vue du monde de l'entreprise, puisqu'on parle de libre-échange et de protectionnisme, et le point de vue des pouvoirs publics. À chaque fois, c'est clairement organisé. Vraiment un livre remarquable sur le fond et sur la forme.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces grandes périodes, Christian ?
Bon, moi, j'ai découpé plutôt en deux grandes périodes pour pas trop aller dans le détail. La première, en gros, de la Révolution française jusqu'à Louis-Philippe, et puis la deuxième, Napoléon III jusqu'en 1914. Il y a tellement d'informations, j'en prends une ou deux. La France a été essentiellement protectionniste dans la politique. Oui. Pourtant, intellectuellement, c'est plutôt les économistes libéraux qui sont en tête. Si je vous dis, citez-moi un économiste protectionniste français de la première moitié du 19e. Alors, l'auteur en cite plein, j'en connaissais aucun. C'est les libéraux qui ont gagné intellectuellement, mais dans la pratique, dans la politique, c'est plutôt une politique protectionniste qui est suivie en France. Jusqu'à Louis-Philippe. Louis-Philippe, lui, commence à avoir des petites tentations libérales. En plus, arrive ce boost incroyable d'Angleterre qui est en 18 1846 l'ouverture des Cornlaws, la libéralisation du commerce du blé en Angleterre. Et à ce moment-là, ça donne un boost libéral absolument incroyable. Or, en ce même moment en France, on commence à voir les premières études de Villermé, les premières études de Blanqui qui montrent les grandes difficultés, la misère de la condition ouvrière. Il va falloir que les entreprises lâchent des choses aux ouvriers. Et donc, les protectionnistes disent, attention, au moment où les entreprises lâchent des choses aux ouvriers, il va falloir quand même les protéger un peu et rester protectionnistes. En face, les libéraux vont faire comme souvent font les libéraux. Il y a une partie qui vont être modérés, qui vont dire, ouais, c'est vrai, il faut faire attention. Et une partie qui devient des libéraux non seulement intransigeants, c'est la liberté du commerce et c'est tout. Il n'y a pas de petite liberté ou de grande liberté. Il y a la liberté ou il n'y a pas la liberté du commerce. Et surtout, il faut se battre contre ces spoliateurs de l'entreprise que sont les salariés qui réclament de la baisse du temps de travail ou des salaires. Bien évidemment, je reprends cette expression à l'un des polémistes libéraux les plus célèbres de l'époque, Frédéric Bastiat. Et puis, donc cette partie est intéressante. Mais quand on bascule dans Napoléon III et ensuite la fin du 19e, pour moi, c'est la partie la plus passionnante du livre. Le coup d'état douanier de Napoléon III, on est dans une ambiance française très protectionniste. Et là, tout d'un coup, la France apprend que le pays a signé un traité de libre-échange avec l'Angleterre, le fameux traité de libre-échange comme d'être chevalier. La description politique de la façon dont le traité est construit, bâti dans le plus grand secret, sans mandat de chevalier du côté français, sans mandat du côté Cobden, du côté anglais, c'est absolument fabuleux, tout est raconté, c'est absolument génial. On s'aperçoit qu'à côté de Michel Chevalier, donc l'économiste français qui va porter ça, il y a d'autres, le ministre du Commerce, le président du Conseil d'État, qui vont être les rouages, les technocrates clés, j'ai envie de dire, qui vont permettre à tout ça de venir. Les protectionnistes vont mettre 20 à 30 ans pour s'en remettre, et c'est Jules Méline qui va arriver et reprendre le flambeau, je dirais, protectionniste. Je passe très vite, hein, y a beaucoup plus de détails dans le livre, bien sûr. Méline qui va revenir avec une volonté protectionniste qui est à la fois... Méline nous dit, j'ai trouvé cette citation absolument incroyable, il y a une sorte de mondialisation industrielle qui est en train de se faire, et au moment où les lois sociales vraiment se développent fin 19e en France, font un peu de protectionnisme, il va nous dire aussi, il faut rattacher la population rurale, qui est la majorité de la population française, à la République. Et si on ne protège pas les ruraux avec le protectionnisme, on va mettre en l'air la République. Donc il y a une dimension beaucoup plus politique qu'économique. Alors, malheureusement, Méline va se tromper en disant que l'avenir de la France, c'est l'agriculture et non pas l'industrie. De ce point de vue-là, il se trompe.
Est-ce que c'est vraiment des mouvements de balancier cyclique, Jean-Marc, entre cette tentation d'ouverture et cette tentation.
Alors, il y a une contradiction. Ce qui montre assez bien, c'est qu'il y a une contradiction permanente entre les intentions intellectuelles qui sont libre-échangistes et les nécessités politiques immédiates qui sont plutôt protectionnistes. Il y a le comte de Saint-Cricq, qui est des personnages du tout début du livre, qui est le responsable des douanes, qui commence sa carrière sous l'Empire, donc en pleine période de blocus continental et qui prolonge sous la Restauration, explique bien que c'est la quadrature du cercle, cette affaire. C'est-à-dire que intellectuellement, il est enthousiasmé par le libre-échange, et en fait, il voit bien que d'abord, il y a des recettes fiscales qui disparaîtraient si on faisait du protectionnisme. Il voit de notre côté que la contrebande s'est considérablement développée, et donc il y a un des problèmes du protectionnisme, c'est que ça entretient toute une zone de mafia, de criminalité qui porte atteinte au contrat social. Et donc, il y a une formule qui est d'ailleurs en quatrième de couverture, qui résume assez bien tout ce qui s'est passé, qui est dû aussi à un des collègues, un des responsables du service des douanes, c'est liberté au-dedans, protection au-dehors, tels sont les éléments de la régénération. C'est-à-dire que le pays considère qu'effectivement, il faut être libéral à l'intérieur de l'économie, il faut abattre toutes les réglementations, toutes les barrières qu'il pouvait y avoir, les péages qu'il pouvait y avoir encore sous l'Ancien Régime. En revanche, il faut se protéger. Et en fait, par rapport à ce que dit Christian, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, effectivement, les intellectuels, les économistes, sont quand même essentiels. Méline dit les académiques sont libéraux et les politiques sont protectionnistes. Et donc, par rapport à tout ça, ce qui est frappant, c'est qu'il y a aussi un enjeu vis-à-vis des puissances extérieures. Oui. C'est-à-dire que l'Angleterre fascine, mais on redoute aussi l'Angleterre. Le passage sur Louis-Philippe, c'est une période où il faut faire comme les Anglais, mais l'Anglais, ça reste quand même fondamentalement quelque part l'ennemi. Quant à Jules Méline, il l'a bien dit. La base rurale, c'est des gens qu'il faut associer à la République, et c'est aussi les futurs soldats de la revanche. Et donc, il faut les garder, il faut les maintenir, il faut les préparer. Et donc, l'Allemagne est protectionniste. Donc, il faut faire comme l'ennemi. C'est-à-dire, il faut se préparer sur les mêmes bases que l'ennemi.
Il y a des figures, des personnages, des intellectuels qui émergent particulièrement de la période ou pas ?
Il y en a plein. Il y a des personnages fabuleux à toutes les pages. Et on en découvre. Moi, je découvre Auguste Mimael, qui est un personnage qui est un grand patron français, qui est l'organisateur du patronat protectionniste. Parce que, en fait, ce qu'on comprend à la lecture de ce livre, c'est que le protectionnisme contre le libre-échange, c'est pas l'État contre les grands acteurs privés. C'est les grands propriétaires fonciers, les capitalistes, mais qui sont les capitalistes coloniaux, les capitalistes manufacturiers. Tout ça pense pas la même chose. Au sein des capitalismes manufacturiers, vous avez un Oberkampf dans le textile qui veut être plutôt libre-échangé, vous avez un Richard Lenoir qui est plutôt protectionniste. Même au sein du même secteur, vous avez des gens qui s'opposent. Vous avez le textile qui a peur du textile anglais et qui veut un peu se protéger. Vous avez tous ceux qui font des chemins de fer et qui veulent pouvoir acheter du fer à bas prix et qui sont plutôt libre-échangistes. Donc c'est une bataille en permanence, sur l'ensemble du 19e, à part cet épisode de Napoléon III, une France plutôt protectionniste. Les effets, et je trouve que c'est de temps en temps, il y a deux, trois petites phrases dans les chapitres conclusifs, mais c'est le vrai débat en fait de fond. L'auteur nous dit, finalement, le traité de libre-échange, il n'a pas bouleversé le commerce français. Finalement, Méline, ça n'a pas bouleversé le commerce français. Est-ce que les politiques commerciales nationales, étatiques, ont une influence si grande qu'on le pense sur le commerce, ou est-ce que c'est plutôt l'innovation, ce que font les patrons, ce que font les grandes entreprises ou pas? Et je trouve que c'est une bonne question, et c'est l'une des multiples questions fascinantes que pose ce livre.
Oui, il y a aussi un autre trait, c'est effectivement au sein du patronat. Le patronat n'est pas uniforme. Auguste Mimael, c'est un personnage qui était... Vous savez, on dit qu'il a été député sous Louis-Philippe, de républicain sous la Deuxième République, sénateur sous l'Empire, et à la fin, on lui dit, vous avez eu un parcours un peu zigzagant. Il dit, pas du tout. J'ai toujours été protectionniste. Il représente le patronat du Nord, le patronat textile. Oui. En face de ça, il y a le patronat des ports. En particulier, ma chère ville de Bordeaux est assez souvent
colonial.
Parce qu'effectivement, elle réclame effectivement le commerce, alors axé sur le commerce colonial, le sucre et tout ça, mais le monde, Bordeaux et Marseille sont du côté des libre-échangistes, alors que le Nord textile est fondamentalement protectionniste.
Et donc, il y a une force intellectuelle libérale à Bordeaux, je comprends pourquoi Jean-Marc Daniel est devenu libéral. Il ne pouvait pas échapper à son environnement géographique.
Je suis fier de ma ville d'origine.
Mais on vous comprend, Jean-Marc, on vous comprend. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous nous avez vraiment envie de lire ce livre, La Nation, frontière du libéralisme, par Francis Demier, aux éditions...
Demier, aux éditions
du CNRS. Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire du jour, c'est Eva Jacquot, qui nous emmène sur les routes des États-Unis à la rencontre des naufragés des subprimes.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Eva, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Eva, journaliste à BFM Business, notre bibliothécaire du jour qui nous emmène à la rencontre. Comment on peut appeler ça, Eva, les naufragés des subprimes aux États-Unis au milieu des années 2010.
Exactement, c'est des nouveaux nomades américains. Donc Jessica Bruder, elle est journaliste et elle se lance en 2015 dans un projet de 3 ans d'enquête et elle récolte des centaines de témoignages sur donc ce phénomène des nouveaux nomades, des travailleurs itinérants. Alors elle écrit Nomadland, donc c'est un livre qui met en lumière ces nouveaux précaires, souvent âgés de 60 à 70 ans. Ils approchent de l'âge de la retraite ou bien ils sont déjà retraités et ils doivent revoir leur mode de vie puisqu'ils ont perdu leur maison suite à la crise économique des subprimes de 2008. Ouais. Alors ces nouveaux nomades, on peut les comparer aux fermiers d'Oklahoma des raisins de la colère de Steinbeck qui étaient... Oui. Dans les années 30, partie chercher du travail en Californie. Et bien ici, Jessica Bruder, elle dresse le portrait de ces hokies de la Grande Récession.
Alors, comment ont-ils fait pour s'en sortir, finalement, après avoir perdu leur maison? Alors, on va pas rappeler toute la mécanique des subprimes, des gens qui parient sur la hausse des prix de leur maison, avec des crédits très faibles au début, et puis patatras, les prix qui arrêtent de monter, ils peuvent plus rembourser, ils se retrouvent à la rue, et là... Comment ils font pour s'en sortir?
Eh bien, eux, donc, ils se sont affranchis de leur loyer en s'installant dans des vannes, dans des camping-cars, parfois même dans des voitures. Et ils sillonnent le pays à la recherche d'emplois saisonniers. Alors, l'héroïne de ce roman, elle s'appelle Linda May. Elle incarne, elle, le symbole de toute cette communauté. Elle est âgée de 64 ans et elle enchaîne les boulots précaires. Alors, elle est à tour de rôle gardienne de camping. Elle est employée dans des entrepôts Amazon où elle ramasse des betteraves. Et elle, donc, sillonne les États-Unis à bord de sa Jeep et elle tire derrière elle donc sa roulotte qu'elle a surnommée Squeezin, soit l'auberge étroite.
Ouais. Alors, le plus étonnant, c'est que on pourrait penser que c'est un mode de vie précaire, extrêmement subi. Et en fait, quand on rencontre Cinnamon, eh ben, pas du tout.
Exactement, en fait au fil du récit, en effet on s'aperçoit que ce qui est au départ une contrainte ou une situation qui est subie, à savoir perdre sa maison, devenir un travailleur itinérant, eh bien c'est une nouvelle vie où on voit la solidarité, l'entraide, l'amitié, même parfois entre les nomades, entre ces gens qui se rencontrent au fil de l'eau, eh bien ça devient une force. Alors on suit cette communauté dans leurs aventures, dans leurs mésaventures, comme par exemple l'ameublement de leur van, leurs peurs mais aussi leurs galères, par exemple crever en plein milieu du désert, sans avoir de roue de secours, ni personne pour nous aider. On les suit dans leur travail et dans leurs rencontres, leurs moments de bonheur. Donc, rencontres avec des personnes, mais aussi avec des paysages magnifiques. Alors ici, donc, le nomadisme, le minimalisme et la marginalité, ça devient pour ces gens une définition d'une nouvelle liberté. Et beaucoup d'entre eux, justement, ne veulent pas forcément revenir à une vie normale avec un toit sur la tête. Ils veulent continuer leur route et garder leur indépendance.
Merci Eva Jacot de nous avoir proposé cette plongée à la rencontre de ces naufragés des subprimes. C'est le livre de Jessica Broder, Nomadland. Merci beaucoup Eva. Et ben, on reste finalement dans une forme de nomadisme avec notre globetrotter Benaouda Abdelhaim qui lui va nous proposer sa moisson d'études récoltées à travers le monde.
Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Allez, on commence, Benaouda, avec une revue des dommages agricoles de guerre en Ukraine.
Alors, l'intérêt premier de ces travaux, c'est qu'ils sont effectués de l'intérieur, au cœur de systèmes agricoles ukrainiens, par des experts ukrainiens, ceux de l'école d'économie de Kiev, en partenariat avec leur ministère de l'agriculture. À la mi-juin, Roman Neiter et ses collègues sont parvenus à une évaluation globale de 4,3 milliards de dollars de dégâts. Ouais. Leurs estimations cumulent les dommages causés par la guerre aux terres agricoles, aux machines et aux infrastructures du secteur. Le passif le plus lourd concerne d'abord les surfaces cultivables. Il y a les dommages physiques directs, mais aussi les diverses pollutions que provoquent par exemple les bombes qui n'ont pas explosé, et les munitions également. Ça représente en tout, d'après cette recherche ukrainienne, des dégâts d'un peu plus de 2,1 milliards de dollars. Suit l'endommagement de la couche fertile des sols, qui est un facteur très important. Les auteurs mettent par exemple en exergue les altérations qu'entraînent le passage des chars avec leurs chenilles. Il faut aussi réparer l'infrastructure d'irrigation. Ce seul poste budgétaire, si je puis dire, est estimé ici à 225 millions de dollars, notamment dans le sud du pays. Mais même là où la guerre n'a pas frappé, il y a l'obstacle de la logistique, un obstacle majeur, ce qui fait qu'en fin de compte, environ 2 400 000 hectares pourraient ne pas être récoltés, perte donc de 1,4 milliard de dollars. Alors, un tracteur, un camion, nous disent-ils aussi, court un risque plus élevé d'être touché que les autres grands équipements agricoles, comme une moissonneuse-batteuse. Pourquoi un tracteur plus qu'une moissonneuse-batteuse? Parce qu'un tracteur, vous pouvez l'utiliser pour faire la guerre. Ces économistes ukrainiens affirment par ailleurs que les forces russes cible des installations de stockage en vue d'affaiblir les capacités, encore une fois, agricoles du pays. Selon leurs calculs, 272 millions de dollars de destruction spécifique. Il y a aussi le bétail, impossible de le nourrir, impossible de le soigner, impossible de faire venir un vétérinaire. Et les auteurs donnent tête par tête le nombre précis de pertes. Et c'est un premier tour d'horizon agricole donc, qui additionne perte de revenus, destruction d'actifs corporels et de stocks, encore une fois, vu de l'intérieur.
Et oui, passionnant. Le bitcoin et le blanchiment d'argent au Costa Rica.
C'est une recherche de troisième cycle qui a été publiée par l'Université du Costa Rica. Au fur et à mesure du recul des cours des crypto-monnaies, l'inquiétude est en train de gagner certains pays d'Amérique centrale qui redoutent une forte déstabilisation de leur Finance Nationale au Salvador, chacun le sait maintenant peut-être, le Bitcoin dans un mouvement tout à fait précurseur a statut de monnaie légale depuis le mois de septembre. Le Costa Rica, pour sa part, a mis en place une législation plutôt ouverte, plutôt favorable en la matière. L'État en fait un facteur d'attraction à la fois pour les transactions, mais aussi pour le minage. Les agafantes de Bitcoin ou autres peuvent y être opérées sans taxe sur les plus-values, alors qu'il n'y a pas, le Bitcoin n'a pas cours légal au Costa Rica. C'est une économie d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Ici, Manrique Larrabolanos a une approche strictement juridique. Il met en regard pour son pays qu'un système informatique décentralisé capable de créer comme valeur sans qu'une entité centrale puisse la réguler. L'auteur ne rentre pas dans de vastes considérations théoriques, philosophiques, dans le sens ou bien en l'absurdité de ce qu'est une crypto-monnaie. Ouais. Pour lui, en tout cas, la blockchain et le Bitcoin sont là pour rester, je cite. Et en tant que juriste, il constate seulement que cette activité échappe au texte qui existe au Costa Rica en matière de droit pénal économique, ce qu'il considère comme tout à fait préjudiciable collectivement pour la société de son pays. C'est l'anonymat qui peut favoriser, selon lui, l'activité criminelle, le blanchiment d'argent, le financement du banditisme, voire du terrorisme. Et à cet égard, l'auteur considère que l'effort de régulation se révèle extrêmement difficile, dès lors que même la Chine, nous dit-il, ne dispose pas d'une avance réglementaire. Alors que dire du Costa Rica seul? Sans une mobilisation institutionnelle internationale d'une toute autre ampleur qu'actuellement, c'est, d'après le juriste costaricain, un problème essentiel de confiance auquel va se heurter le Bitcoin d'ici très peu de temps.
Et on termine par les États-Unis, Ben Aouda, où l'on s'inquiète de l'augmentation de la mortalité sur les routes.
Alors, vous avez peut-être vu que c'est la dernière tendance française est défavorable, mais les auteurs américains de cette étude ne les avaient pas encore, cette tendance. Et c'est bien la France que Jonah Freemark et ses collègues de l'Institut Urbain de Washington donnent en exemple aux Américains, aux États-Unis, en matière de politique publique de sécurité routière. Ah ouais. Oui, alors pourquoi la France? Parce que d'abord, il faut voir que au sein du G7, seuls les États-Unis voient encore le nombre de décès sur les routes continuer d'augmenter au cours des dernières années. Plus 25% entre 2014, année d'un plus bas, et 2021. Là où, sur cette période, la France est à encore moins 15%. Pourquoi se concentrer sur la France, qui ne compte pourtant pas parmi les plus vertueux, les mieux classés? Ouais. Il s'avère que dans les années 1990, les deux pays avaient exactement le même taux de mortalité routière par habitant. C'est donc à partir de là qu'il devient instructif de comparer. Les lignes de tendance ont commencé à diverger de plus en plus à partir de 1994. Le risque pour un Américain de mourir sur la route est ainsi à présent presque trois fois plus important que pour un Français. Calcul des auteurs, si les États-Unis avaient suivi la même courbe que la France depuis 1994, c'est l'équivalent d'une ville comme Cleveland dans l'Ohio ou de la Nouvelle-Orléans qui vivrait encore aux États-Unis. Et ce n'est pas qu'une question de modèle ou de philosophie du transport. Le recours à la voiture étant moitié moindre en France, la différence de mortalité entre les deux pays se révèle aussi très nette par kilomètre parcouru. Donc ce n'est pas une question de quantité de kilomètres. Okay. Et même en tant que piéton, alors que les Français sont, je cite, beaucoup plus nombreux à marcher sur les courtes distances que les Américains, un tableau à l'appui, à la fin des années 1970, en termes relatifs, les décès étaient bien plus importants en France parmi les piétons, mais en 2021, c'est tout à fait l'inverse. En ayant les données françaises, les États-Unis auraient là aussi 60 000 morts de moins depuis cette période. Alors, les auteurs dressent une série de recommandations, à peu près calquées d'ailleurs sur les mesures françaises des 30 dernières années. Abaissement des limitations de vitesse en ville, radar automatique sur les grands axes, incitation à l'achat de petites voitures. Pourquoi des petites voitures? Parce que ces modèles-là réduisent la gravité des blessures sur les piétons. Une extension des zones piétonnes, promotion de la marche aussi. Mais est-ce que le peuple américain est disposé à se plier à une telle évolution française? L'Urban Institute de Washington ne nous le dit pas.
Ah, passionnant. Alors là, c'est bluffant. Enfin, c'est même incroyable, parce que je pensais pas que les Américains pouvaient prendre la France comme modèle. Alors qu'on dit déjà que le modèle français est pas assez de prévention, trop de répression.
C'est un modèle moyen,
etc. C'est un modèle moyen, effectivement. Et puis alors à voir avec l'arrivée de toutes les nouvelles mobilités qui vont encore bouleverser la donne. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
C'est pas tous les jours qu'on a un inédit d'Émile Durkheim. Donc un inédit d'Émile Durkheim retrouvé par un chercheur français qui a mis des années et des années à retrouver le manuscrit, les leçons de sociologie criminelle, et il se trouve qu'il y a un des étudiants de Durkheim. Quand Durkheim enseignait à Bordeaux, fin 1892, début 1893, il donne ses leçons de sociologie criminelle. Et il y a un étudiant qui a sténographié le cours de manière incroyable. Je trouve que cet étudiant fascinant, c'est le neveu de Durkheim, c'est Marcel Mauss. Et c'est grâce à la note extrêmement, aux notes extrêmement précises de Mauss qu'on a ces leçons de sociologie criminelle. Un an avant le travail sur le suicide, on retrouve la même stratégie intellectuelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, les forces sociales sont plus importantes pour expliquer le crime que les forces individuelles. On retrouve une proposition de typologie des crimes, comme on retrouvera une proposition de typologie des suicides. Franchement, un inédit de Durkheim, ça méritait d'être souligné.
Jean-Marc Daniel.
Et je recommande le livre d'Emmanuel Combes, La concurrence. Emmanuel Combes, on le connaît, c'est à la fois un universitaire spécialiste de la concurrence, et puis c'est un membre de l'autorité de la concurrence, donc c'est un praticien de la concurrence. Il sort une deuxième édition de son livre au PUF, avec une préface de Laurence Boone. On retrouve la qualité des livres d'Emmanuel Combes, le côté pédagogique, le rappel de la théorie, et puis des cas concrets et pratiques qu'il a plus ou moins vécu, donc c'est un moyen de faire le point sur la concurrence de façon intelligente et assez exhaustive.
Merci. Allez, moi, tiens, je termine pour boucler peut-être cette période extrêmement politique. Un livre que j'ai trouvé remarquable. Yves Marek, Gouverner, c'est aimer, aux éditions Ballant. Yves Marek, il a été directeur de cabinet, conseiller de six ministres de droite et de gauche. Alors, il nous propose un recueil de textes, de romanciers, de penseurs, de mystiques, d'hommes politiques sur l'art de gouverner, de conduire les affaires. Il y a plein de citations que vous pourrez recaser dans vos dîners en ville. C'est plein de propos de table et de réflexions très subtiles. Ça s'appelle Gouverner, c'est aimer, par Yves Marek aux éditions Ballant. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.